Bonjour Frédéric de Gelt.
Bonjour.
Dans ce livre, la narratrice s'appelle Taïna et elle est l'objet d'une prophétie que l'on découvre page 33. Tu vivras la plus belle histoire de ta vie, celle qui n'arrive pas à tous, mais elle sera entourée du malheur le plus tragique pour un humain, celui de voir la souffrance de son peuple aimé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément de cette prophétie ?
Alors, Taïna est enseignée par une béique, c'est-à-dire une chamane, et elle va elle-même devenir chamane. Et donc, la prophétie, c'est une prophétie dans la nature. Elle est en train de se baigner et elle voit ces oiseaux noirs qui tournent. Donc ça, c'est la partie sombre, je dirais, qui en fait raconte que Christophe Colomb va arriver et que ça va être un massacre terrible. Et par ailleurs, il y a toutes ces libellules qui sont autour d'elle et qui lui promettent ce qu'on appelle l'amour rare, c'est-à-dire la rencontre avec un être qu'on a déjà aimé, mais qui en l'occurrence sera un Espagnol.
Ça raconte bien un petit peu ce peuple des Taïnos. Alors comment vous pouvez nous le décrire, ce peuple-là qui vit complètement dans la nature avec elle ?
Alors, quand on pense aux indigènes et qu'on pense aux tribus, on pense à des gens nus, on pense à des gens qui nous sont inférieurs, qui n'ont pas du tout la même culture. En fait, on ne les regarde pas comme étant équivalents à nous. Et même l'anthropologie a fait ça aussi quand elle les étudiait. Mais ce sont des gens profonds qui, effectivement, n'abîment pas la nature puisqu'ils la respectent, n'appellent pas la nature l'environnement, c'est-à-dire ce qui vous environne et qui n'est pas vous, donc. Donc, ils ne nomment pas mal les choses comme nous le faisons, ils ne les détruisent pas. Ce n'est pas la même façon de les considérer si, tout d'un coup, on raconte l'histoire de leur point de vue. Parce que de leur point de vue, les Espagnols qui arrivent sont trop couverts pour être sous les tropiques, ne se lavent pas, sont donc sales et ont une religion dans laquelle ils ne respectent absolument pas ce dieu qui est soi-disant amour. C'est rien de le dire puisqu'il les coupe en morceaux. Donc franchement, on est très très loin de ce que raconte la religion catholique quand elle est amour.
Vous parlez très bien de la façon de vivre de ce peuple, de son rapport à la nature, de leur rapport les uns aux autres. Ce sont des êtres vivants et libres. Qu'est-ce qui vous a à ce point fait écho chez eux pour que vous ayez l'envie d'en parler ?
Ce qui a fait écho, c'est d'abord leur disparition. C'est-à-dire que j'ai débarqué en République dominicaine il y a plus de 20 ans et je ne connaissais pas les Taïnos jusqu'à leur nom. Alors que nous employons des mots taïnos. Quand vous dites un hamac, ça vient de hamaco. Quand vous dites un barbecue, ça vient de barbacoa. Tout ça sont des mots taïnos. Et ça m'a beaucoup troublée de me dire qu'on pouvait faire disparaître un peuple jusqu'à son nom. Et puis le nommer aussi les Indiens, alors qu'on n'est absolument pas en Inde, et que ça reste. Et aussi apprendre que, oui, la conquête espagnole, évidemment, ils sont venus avec des maladies et les Indiens sont morts à cause des maladies. Ce n'est pas vrai. C'est un génocide, c'est le premier, et les Espagnols n'ont jamais demandé pardon.
Vous nous racontez donc dans ce livre les exactions commises par les Espagnols à Saint-Domingue à la fin du XVe siècle. La figure de Christophe Colomb en prend un coup. Vous renversez la notion de sauvagerie. C'est quoi une sauvagerie, un sauvage pour vous ?
Alors un sauvage, normalement la sauvagerie c'est être dans un lieu qui n'est pas urbain, qui appartient à quelque chose de libre. C'est ça la sauvagerie. Mais par extension, la sauvagerie, c'est devenu aussi la façon dont on peut traiter quelqu'un en sauvage, puisque nous avons estimé que les sauvages, ceux que nous appelons les sauvages, ne sont pas disciplinés, n'ont pas été éduqués, sont très en dessous de nous, et même n'ont pas d'âme. Ça a même été le propos à un moment de savoir s'ils avaient une âme ou pas.
Alors l'histoire appartient aux vainqueurs. Comment vous avez fait pour vous documenter et pour retracer l'histoire qui est dans ce livre ?
C'était un long travail parce que ce qui existe, et je dirais que les écrits les plus complets, c'est ceux de Bartolomé de Las Casas, que je mets d'ailleurs dans le livre, et qui est celui qui raconte vraiment de façon plus claire la tragédie. C'est lui qui influence Taïna pour qu'elle écrive de son point de vue. Il avait très peur d'ailleurs qu'on fasse disparaître ses écrits. Pendant très longtemps, il ne les a pas montrés.
Donc ils existent vraiment hein,
Ils existent vraiment. Je les ai lus en espagnol du XVe siècle avant qu'ils ne soient complètement traduits en français. Il y avait beaucoup de recherches et sur place et en discutant avec des anthropologues. Et on sait beaucoup de choses maintenant sur les Arawaks, puisqu'ils sont d'origine Arawak, ces Taïno, parce qu'il n'y avait pas que des Taïno, il y avait des Caribs, il y avait des Siguayos, enfin il y avait plusieurs tribus qui étaient assez identifiées, c'est-à-dire que les Taïno étaient plutôt des agriculteurs et des marins, et plutôt pacifiques, puisque Taïno, ça veut dire homme bon. Donc il y avait tout ça à dégrossir avant de pouvoir écrire de façon, fluide.
C'est donc un roman historique ? Sauf qu'il paraît aujourd'hui, en 2025. Pourquoi c'est intéressant de raconter cette histoire-là aujourd'hui ?
Alors, elle est complètement en miroir, d'abord parce que Taïna écrit de façon extrêmement contemporaine, dans la mesure, pas parce que c'est moi qui écris et que je suis aujourd'hui, mais parce qu'elle ne vient pas de l'écrit. Elle vient d'une tradition orale. Et donc, elle le dit elle-même, elle ne peut pas écrire dans le style de Bartolomé de Las Casas. Donc, c'est cette tradition orale qui lui fait s'emparer de l'espagnol pour écrire comme elle écrit, comme on écrirait aujourd'hui, finalement. Et par ailleurs, le chaos du monde et la barbarie du monde est la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de progrès, on continue à couper les gens en morceaux. Et puis cette planète qui est tellement en danger au niveau de la nature, c'est bien de retrouver tout ce qu'on a perdu au niveau des arbres, de la forêt, de la poésie qui émane de la nature. Et les Taïnos disent que l'or du couchant est bien plus important que l'or que veulent trouver, ramener, amasser les Espagnols.
Je crois que cette histoire, elle est née en vous il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a fait qu'elle vous accompagne si longtemps, que c'était si long pour en arriver à bout ?
Je n'avais pas, même si j'ai été troublée par la rencontre avec les Taïnos, et même si j'ai eu l'histoire depuis très longtemps, je n'avais pas ce qu'il fallait pour l'écrire. Donc elle a cheminé à mes côtés pendant des années, je me replongeais, je refaisais des recherches et j'accumulais tout ça pendant des années. Et puis un jour, ça a été là. Et c'était très étrange parce que aujourd'hui on dit que l'auto-da-fé que font Elon Musk et Trump en faisant disparaître des mots, etc. Paul Preciado a fait dernièrement un article dans Libé où il explique que ça, c'est exactement ce qu'ont fait les Espagnols avec la conquête quand ils ont amené l'imprimerie, c'est-à-dire éliminer tout ce qui peut faire sens dans l'oralité et dans la transmission orale.
Alors au centre de ce livre, il y a aussi une très belle histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose, Taïna et un Espagnol. C'est donc un hymne aux différences aussi. Qu'est-ce qu'elle racontait pour vous cette histoire d'amour au milieu de ce livre ?
D'abord qu'au milieu du chaos du monde, il ne reste que l'amour. Que tout être qui découvre l'autre avec le sentiment amoureux se rend compte de qui il est soudain. C'est exactement comme les histoires d'amour qu'ont pu naître entre un Palestinien et un Juif, et une Juive, ou l'inverse. Connaître l'autre de l'intérieur, par cœur, par le cœur, comme dit Boris Cyrulnik, c'est ça. Et c'est ce qui sauve. Il n'y a que l'amour qui sauve de la barbarie.
Et c'est ce qui prend le pas d'ailleurs dans le livre, parce que c'est pas du tout un livre de massacre où on aurait du mal à tourner les pages. C'est surtout un livre d'amour finalement.
Oui, parce que c'est le livre de l'amour que nous avons en nous. Et si on regardait plus attentivement, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais on découvrirait probablement que 80% des humains de cette planète veulent vivre l'amour et être heureux, et qu'il y en a 20% qui mettent tout ça à feu et à sang.
Frédéric de Gueil, vous signez Sauvagerie chez Actes Sud, l'histoire d'un peuple oublié, d'un massacre qui n'a pas été raconté, d'une voix que vous nous révélez et d'un roman qui ne ressemble à aucun autre. Merci beaucoup.
Merci.